la guerre des éponges. Le peuple des êtres en pierre et celui des êtres en éponge étaient en guerre depuis plus de 2000 ans. Les pierres surnommées les rochiens possédaient des corps et bien sûr des cœurs de pierre. Ils étaient les descendants de tous ces cailloux qui furent jadis si populaires à l'âge de pierre. Leur nature belliqueuse provenait en fait de la dureté de leurs ancêtres, méprisant tout ce qui pouvait s'apparenter à de la souplesse, voire même à de la douceur. Les rochiens tyrannisaient leurs voisins appelés les épongiens. Ce conflit était d'ailleurs tellement inégal entre ces deux peuples du désert planétaire qu'il faudrait se demander ce qui empêchait les rochiens d'exterminer complètement les épongiens. En effet, ceux-ci possédaient des armes en silex, des lance-pierres et des gourdins. Puis que dire de leur force physique prodigieuse? Quant aux épongiens, leurs pauvres ennemis, ceux-ci ne possédaient en fait que des lances de liège pour se défendre. De plus, leur corps était mou et poreux, comme des éponges. Ils ne pouvaient rien soulever de lourd. Ces milliers d'êtres fragiles survivaient tant bien que mal dans leur grand village bâti uniquement en ouate. Ce peuple asséché par la chaleur n'était pas fait pour vivre dans le désert puisqu'il était originaire de la mer. L'histoire de la guerre commença lorsque les ancêtres marins des épongiens reçurent pour mission de laver toutes les pierres du désert afin de les nettoyer du sang qui les recouvrait. Par contre, les rochiens se refusèrent catégoriquement, préférant leur état actuel à celui d'être lavé par l'eau. La guerre éclata aussitôt. Les malheureuses éponges tentèrent donc un retour vers leur habitat naturel, mais sans cette eau pour les imbiber, elles se traînèrent vaille que vaille sur le sable, sans pouvoir parcourir plus d'un mètre par jour. Le soir, l'humidité les nourrissait juste assez pour survivre une seule journée. Ainsi, peu à peu, les épongiens, conscients qu'ils n'avaient qu'une chance minime de survivre dans le désert, abandonnèrent cette folle idée de revoir leur mère patrie. De plus, pourchassés par la vengeance des rochiens, ceux-ci réalisèrent très tôt qu'ils devaient s'armer de tout ce qui pourrait être transportable pour eux. Ainsi donc, après avoir consulté les sages, il fut décidé qu'on établirait un village afin de se protéger. Le jour, les éponges partiraient à la recherche de boules de ouate et de liège. D'ailleurs, ce fut tout ce qu'ils trouvèrent, et ce, en grande quantité, bien qu'ils ne surent jamais d'où provenaient ces matériaux. Quoi qu'il en soit, ceux-ci leur furent très utiles pour fabriquer des huttes et des armes. Bien que depuis plusieurs années les rochiens n'avaient plus rien à craindre des épongiens, la guerre durait depuis des millénaires. Est-ce par habitude ou par plaisir? Cela n'est pas mentionné dans l'histoire. Il n'en demeure pas moins que l'instinct de ces guerriers les poussait à terroriser et à massacrer leurs faibles voisins. Malgré les efforts de ces derniers de rester à distance, les rochiens s'amusaient à s'en approcher pour ensuite essayer de les atteindre avec des centaines de catapultes. Cette forme de persécution maladive envers les épongiens leur en coûtait beaucoup, car les pierres utilisées sur les catapultes étaient des guerriers suicides. Leur mission était de se laisser docilement lancer sur la tête des épongiens. À cause de la violence de la chute, ceux-ci étaient littéralement pulvérisés dès qu'ils atteignaient le sol. Afin de riposter à ces attaques surprises, les épongiens envoyaient aussitôt une volée de lances sur le territoire ennemi, mais à chaque fois, les projectiles en liège rebondissaient sur la tête dure des rochiens et les huttes de pierre, sans y laisser la moindre égratignure. Inutile de dire que les rochiens ne se donnaient même pas la peine de se cacher pendant les attaques et continuaient à vaguer à leurs occupations comme s'il s'agissait d'une simple pluie passagère. Ce fut ainsi pendant des milliers d'années. Cette guerre inégale durait sans que les pauvres épongiens puissent trouver une autre façon de se défendre. Leur seule consolation fut peut-être de songer à ces guerriers suicides sacrifiés par le terrible calcaire, chef des rochiers. Ce dictateur cruel et meurtrier n'avait nul besoin de sacrifier ainsi la vie de ses milliers de guerriers, et son peuple le savait. Celui-ci le détestait pour cette raison. Mais qui aurait osé s'attaquer à ce géant, capable de soulever à lui seul un rocher de plusieurs tonnes? De plus, son gourdin en pierre servait à effriter la tête de ceux qui osaient s'opposer à son régime. Pour ce qui est du peuple des éponges, leur héros s'appelait Bras Puissant, car celui-ci pouvait soulever à lui seul une hutte entière de watts au bout de ses bras. Ce puissant du peuple des faibles ignorait toutefois qu'il aurait un jour à combattre le puissant et fort calcaire. Il faut le répéter que cette guerre durait depuis si longtemps qu'elle finit même par faire partie des mœurs. À l'éponge qui en demandait la raison, la réponse était invariablement « Les Rochiens détruisent nos huttes, écrasent nos frères, et tu demandes pourquoi la guerre ?» Chez les voisins, la réponse était quelque peu différente. « Mais tu ne vois pas qu'on viole notre tranquillité à coups de lance, inoffensive ou non, est-ce une façon d'agir pour un peuple qui se dit pacifique ?» Un matin, pourtant, apparut un ermite au milieu du village épongien. Celui-ci paraissait étrange pour le peuple des éponges, car il avait l'aspect d'une pierre et la texture d'une éponge. Cet ermite se présenta au roi comme étant le messager d'une mission précise. Rétablir la paix entre les deux peuples ennemis. Il débuta donc son discours ainsi. Vous qui cherchez à comprendre l'origine et le sens de cette guerre interminable et cruelle, écoutez-moi. Je suis le médiateur envoyé par le roi du Nord. Il connaît l'origine de votre peuple et celle des pierres. Ce que vous ne savez pas, c'est que jadis, bien avant la naissance des éponges et des pierres intelligentes, vivait un grand peuple appelé humain. Celui-ci occupait à l'époque tout le vaste territoire de la planète. Mais les humains ont fait la guerre partout entre eux et ont ainsi détruit toute la nature qui existait sur la planète. Par la suite, tout devint aride et désertique. Les quelques survivants finirent par s'entretuer afin de conquérir les quelques terrains épargnés de la dévastation. Les pierres furent utilisées pour se battre. Ainsi, il ne resta plus bientôt que quelques vieillards malades et stériles. Ce peuple finit par s'éteindre de lui-même. Ainsi, le silence s'installa à jamais dans ce qui fut autrefois des cités superbes et des villages. Il ne reste plus que les ruines de cette ancienne civilisation. Un lourd silence plana sur l'assemblée. Plus brave et plus soupçonneux, Bras Puissant intervint. « Pourquoi écoutons-nous celui qui ressemble trop à nos ennemis? Peut-être peut-il être notre allié? » « Laisse-le parler, lui répondit le roi Spongieux Ier, fils du vaillant roi, Poreux le Doux et descendant de l'illustre Simon de Noc, premier guide des Épongiens. » L'ermite poursuivit donc en ces termes. « Les humains ont toujours utilisé les pierres comme outils, comme armes, comme bijoux et comme habitations. » Dès l'âge de pierre, une histoire circulait qu'un frère en aurait tué un autre en utilisant une pierre comme massue. La haine et la jalousie des humains forcèrent d'autres pierres à se laisser polir et ligoter sur les pointes de flèches et des lances. Par la suite, ceux-ci attachèrent ensemble plusieurs pierres qu'ils appelèrent précieuses afin d'orner leur cou, leurs poignets et leurs têtes. Peu après, les pierres servirent à donner des titres à ceux qui les transportaient en couronne. Certains humains ont même tué afin de posséder une seule de ces pierres précieuses. Les humains et les pierres ont partagé souvent les mêmes joies et les mêmes peines, de la pierre de naissance à la pierre tombale, de la pierre à sacrifice à la pierre d'autel. Il y eut des humains pour les aimer à la folie et ou pour les maudire dans leur agonie. L'or signifiait pour eux la richesse, mais la plus recherchée des pierres fut sans doute la pierre philosophale, qui représentait aux yeux des sages mille fois la valeur de l'or. Le sage attendit d'avoir l'attention de toute l'assemblée avant de poursuivre son exposé. Plusieurs maisons furent aussi construites en pierre, comme les temples, les pyramides et les châteaux. Par contre, il y eut aussi des lieux où les pierres servirent à enfermer des prisonniers dans les donjons ou des tombeaux. Même si à l'époque les ancêtres des Rochiens furent plus résistants, plusieurs furent sacrifiés afin d'aider les humains à moudre leurs grains, retenir l'eau des écluses et surtout emprisonner le feu dans leurs maisons. Bien que les pierres servirent quotidiennement aux besoins des humains, ceux-ci ne les ont pas comprises. Finalement, le fait d'être continuellement utilisé par eux finit par développer chez les pierres une certaine conscience. Par contre, comme celles-ci furent plus initiées à la violence qu'à l'amour, les pierres oublièrent à quoi elles pouvaient ressembler. Il en fut de même pour la tolérance et la justice, héritage de tout ce qui existe dans la nature. Après avoir observé tant d'iniquités chez les humains, les pierres finirent par avoir le cœur de pierre que vous connaissez aujourd'hui. Si les enfants des humains n'avaient pas jeté des cailloux sur leurs frères, si le sang humain n'avait pas tant souillé les champs de bataille, ceux-ci n'auraient pas engendré les pierres guerrières, les ancêtres des rochers. Il fallut donc que la mémoire de ce sang répandu fût effacée sur le corps de ces pierres. C'est pourquoi le roi du Nord dit à vos ancêtres, « Vous, les éponges, que j'ai préservées de toute cette violence en créant ce ciel liquide qui porte le nom de mer ou d'océan, je vous donne cette noble mission d'aller laver toutes les pierres du désert afin de les purifier. Sortez de votre monde marin et n'oubliez pas que votre force est l'eau. Mais voilà, malheureusement, vos ancêtres se sont laissés assécher bien avant de rencontrer les rochers. Ainsi, lorsqu'ils tentèrent de les laver, ils ne firent que les irriter, car une éponge sèche ne vaut guère mieux qu'un arbre sans fruits. Ce qu'ils avaient oublié dans le message, c'est qu'ils devaient d'abord trouver la source du désert, s'y tremper, et ensuite accomplir leur mission. » Le roi des épongiens se leva et s'approcha de l'ermite, afin de lui offrir son amitié, car enfin, le voile se levait sur un grand mystère. Tout à coup, une pluie de guerriers suicides s'abattit sur le pauvre village. Plus de 10 000 villageois furent engloutis sous l'imposante masse de pierres concassées. Le roi fut mortellement atteint par 4 de ses projectiles, l'ermite aussi. Par contre, celui-ci eut le temps de murmurer ses quelques paroles d'espoir. « Cherchez la source du désert, c'est là votre seul salut. » Ce fut un grand jour de deuil pour les épongiens, qui pleurèrent longuement la mort de ces 2 êtres pleins de sagesse. Ils savaient que si le roi était prêt à offrir son amitié à l'ermite, c'est que celui-ci avait reconnu, comme eux, que ce grand sage était effectivement l'envoyé du roi du Nord. Mais il fallut désigner un nouveau chef, qui lui seul pourrait ordonner la recherche de cette fameuse source évoqué par l'ermite. Bras puissant se croyait le seul à pouvoir accomplir cette fonction. N'était-il pas le héros de ce peuple? Par contre, ce qu'il ne réalisait pas, c'est que justement pour être un héros, il faut faire fi de la sensibilité, qualité essentielle pour défendre son peuple. Un héros doit parfois accomplir des exploits hors du commun afin de protéger les siens. Sa tâche est des plus ingrates, car il se doit d'être toujours le plus fort, peu importe les circonstances, supportant le lourd tribut de la gloire ou de la défaite. Il est celui que l'on envoie pour accomplir ce que chacun n'ose faire par lui-même, et les attentes face à un héros sont immenses. À cause de tout cela, il est rarement celui qui ordonne, mais bien celui qui offre sa vie pour une grande cause. Finalement, le sort voulut qu'il soit nommé chef d'armée. Le titre de grand pouvoir premier tomba sur un épongien qui, jusqu'à ce jour, avait mené une vie assez obscure. Par contre, celui-ci avait déjà un grand pouvoir d'influence sur plusieurs citoyens du village, parce qu'il avait la réputation d'être une éponge prudente. De fait, face aux événements, ce nouveau roi ordonna à son peuple de reculer devant l'envahisseur. Son chef d'armée lui suggéra de faire rechercher cette source mentionnée par l'ermite avant d'être passé. Mais celui-ci répondit, « Je le voudrais bien, mais je crois qu'après tous ces bouleversements derniers, mon peuple n'est pas en condition d'entreprendre une telle expédition. Moi aussi je crois au pouvoir du roi du Nord. Par contre, je pense que si nous sommes incapables d'entreprendre cette mission, nous pouvons toutefois la désirer si fortement dans nos cœurs pour que celle-ci vienne à nous. » « Je vois », se contenta de répondre le chef d'armée. Soumis mais attristé, Bras Puissant s'éloigna, car il n'osa contredire ce nouveau roi. Il alla plutôt se reposer là où gisait le corps de l'ermite. Ce fut donc lui qui fut le premier à percevoir la rivière. En effet, pendant la nuit, une rigole d'eau claire était apparue à l'endroit même où gisait le corps de l'ermite la veille au soir. Chose étrange, ce petit ruisseau prenait présentement des proportions immenses pour enfin se transformer à l'aube en une rivière imposante, longue de 200 km par une centaine de mètres de large. Aussitôt, Bras Puissant se jeta dans la rivière et, vivifié, courut annoncer cette grande nouvelle au roi. Par contre, dans le camp adverse, les choses se passèrent différemment, car au matin, certains guerriers virent quelque chose miroiter non loin de leur village. Croyant voir un mirage, ceux-ci en informèrent tout de suite leur chef. Calcaire envoya aussitôt quelques éclaireurs afin de vérifier ce fait, qui pour eux serait une catastrophe. Lorsqu'ils réalisèrent qu'effectivement c'était de l'eau, ceux-ci réagirent rapidement. Et Calcaire ordonna à 10 000 guerriers de se tenir prêts à se sacrifier dès que les épongiens tenteraient de s'approcher de la rivière. Ainsi, munis de ces armes redoutables rangées le long de cet étrange cours d'eau, il fallait s'attendre à voir des éponges périr en tentant de sauter dans cette rivière. Calcaire savait que les épongiens voudraient s'imbiber d'eau, ou pire encore, lui échapper en trouvant refuge au fond de ce monde liquide. Il serait ensuite impossible de gagner cette guerre. L'un des guerriers rochiens réagit face à cette décision de sacrifier tant de pierres qui, pour lui, ne servaient qu'à satisfaire la folie d'un tel dictateur. Il suggéra donc au chef d'essayer plutôt de traverser la rivière en disant ainsi « Nous pourrions repousser les épongiens et ainsi contrôler l'accès de cette rivière. »« Imbécile !» lui cria son chef en colère. « Nous sommes des pierres et par conséquent aucun guerrier ne pourrait traverser de l'autre côté. » À peine introduit dans l'eau, il s'y retrouverait au fond à tout jamais. Calcaire avait parfaitement raison. C'est pour cela qu'il craignait tant de devoir perdre cette bataille aussi bêtement. Il était convaincu que les épongiens chercheraient à lui échapper en se jetant dans cette rivière de malheur. Mais il se trompait, car Bras Puissant dit à son roi, « Les pierres s'attendent sans doute à nous voir fuir vers cette rivière. » Des millions d'épongiens y trouveraient la mort avant même de pouvoir l'atteindre. Pourtant, cette rivière apparut magiquement ce matin devant nous, afin de nous inciter à accomplir cette mission spirituelle que nos ancêtres ont été incapables de réussir sans eau. C'est d'ailleurs ce que nous a demandé le roi du Nord. Avons-nous le choix de laisser quelqu'un imposer sa folie meurtrière? Tu as bien raison, lui répondit le roi en opinant de la tête. « Si tu trouves une solution, je suis prêt à ordonner à mon peuple de te suivre. »« Peut-être, » répondit Bras Puissant d'un air songeur. « Depuis la mort de cet ermite, une vieille légende ne cesse de me revenir à l'esprit. Je me souviens d'un vieux conteur du village qui a évoqué un fait concernant les humains dans une légende. Ceux-ci, dit-on, détruisaient les roches en les faisant chauffer dans un grand feu. » Ensuite, il les aspergeait d'eau, ce qui devait avoir pour effet de les faire éclater en plusieurs morceaux. Peut-être faut-il mettre le feu au village de Rochien pour ensuite les arroser. Mais comment ferons-nous pour les arroser? Demanda le roi intrigué. Mon plan commence à se préciser, lui répondit le chef d'armée. Je pense qu'il faut d'abord mettre le feu à leur catapulte placée sur la rive. « Si le vent nous est favorable, nous pourrons les atteindre avec nos lances enflammées, ce qui fera une diversion. Pendant ce temps, je me jeterai à l'eau avec 200 guerriers, profitant de l'épaisse fumée qui empêchera nos ennemis de nous voir. Ensuite, il faudra faire vite pour atteindre l'autre rive et arroser leurs catapultes en pierre. Si cette légende dit vrai, celles-ci vont éclater en 1000 parties. » « Mais c'est une mission suicide que tu proposes là, Bras Puissant, » rétorqua le roi inquiet. « Le feu va vous brûler mortellement. »« Peut-être pas, mon roi, » lui répondit l'autre en souriant. « Les chances de nous en sortir vivants sont minces, mais elles existent. S'il nous reste assez d'eau après avoir arrosé les pierres, celle-ci nous isolera du feu pour un certain temps. Une fois les catapultes détruites, nous nous empresserons de sauter dans la rivière, tandis que d'autres guerriers enverront des milliers de lances enflammées sur le village de Rochien. Nous marcherons ensuite vers lui, imbibés d'eau, et toucherons nos ennemis devenus aussi brûlants que le chaud soleil du midi. À 200 000 guerriers mouillés, qui se suivront par colonnes de 1000, notre arme saura bien faire éclater des milliers d'ennemis échaudés. le roi approuva ce plan. Les trois jours suivants, ils attendirent ce vent qui permettrait aux lances d'atteindre l'objectif voulu. Pas moins de 6000 éponges fixèrent des ouates sur la pointe de leurs armes en liège et attendirent les ordres de bras puissants. À l'aube du quatrième jour, un vent favorable souffla en direction du village érochien. Le chef des armées épongiennes leva le bras et plusieurs lances enflammées s'élevèrent dans le ciel d'un seul coup, atteignant leur cible avec une précision presque parfaite. Était-ce le roi du Nord qui les guidait ainsi? Pendant ce temps, Bras Puissant poursuivit son plan en se jetant à l'eau avec ses braves. Le contact de ce liquide limpide les vivifia et accéléra même leur course. Toujours pendant ce temps, la panique éclata dans le camp adverse et plusieurs guerriers affectés à la surveillance des catapultes couraient dans tous les sens et de façon désordonnée, en criant à ceux qui pouvaient les entendre « Le village est en feu, les catapultes brûlent et nous aussi ». En effet, devenus des torches vivantes qui essayaient en vain d'éteindre ce feu qui les dévorait, les guerriers de pierre ignoraient que c'était leur épaisse crasse qui servait de combustible au feu. Puis, tous ceux qu'ils touchaient dans leur fuite s'enflammaient aussitôt à leur tour. On aurait dit que le village tout entier s'immolait par le feu, devenu incontrôlable. Dès que les éponges virent tous ces rochers en feu, elles se demandèrent d'où venait cette rapide conflagration de tous les habitants du village. Bras Puissant décida alors de changer ses plans et ordonna à ses camarades épongiens de se frotter autant de roches qu'ils pourraient sans se brûler, car la fumée noire était si dense que les rochers ne pouvaient distinguer les guerriers ennemis. Le moment aurait été idéal pour détruire toutes ces roches, car les autres guerriers épongiens attendaient par milliers le signal de se mettre à l'eau. Toutefois, la fumée noire empêchait le roi des éponges de voir ce qui se passait exactement dans le camp ennemi. Il attendait nerveusement le signal de son chef d'armée, mais Bras Puissant n'avait pas prévu dans son plan initial de devoir se retrouver au milieu d'une épaisse fumée de crasse noire. Heureusement qu'il en fut ainsi, car que serait-il donc advenu du peuple rochien s'il avait été attaqué par des millions d'éponges froides et mouillées? Ces pierres auraient été exterminées, ce qui n'était pas dans l'intention du roi du Nord. Celui-ci fit plutôt en sorte de mettre nos deux héros face à face. En effet, Bras Puissant sortait à peine de la rivière en marchant lourdement, que le géant calcaire se dressa devant lui, tout enflammé et brandissant son gourdin de pierre en sa direction. Il chercha vainement à fracasser la tête de son adversaire, mais au même instant, Bras Puissant réussit à s'agripper à sa jambe rougie par le feu. Un hurlement sinistre s'ensuivit. L'énorme jambe éclata en morceaux, mais sautillant sur un seul pied, le rochien frappait tout autour de lui avec fureur. La fumée qui l'empêchait de voir son adversaire le rendait encore plus colérique. « Ici, calcaire, attrape-moi, voyons, je suis devant toi, as-tu peur de m'affronter ?» Furieux, le géant frappait là où il entendait cette voix qui osait le traiter de peureux. Il vit trop tard dans quel piège son ennemi venait de l'attirer. En sautillant une fois de trop devant lui, calcaire se retrouva au fond de la rivière. Cette fois, ce fut son corps tout entier qui éclata en mille morceaux. « Victoire, victoire !» s'écria Bras Puissant, « calcaire est mort !» Plusieurs éponges sautèrent à l'eau afin de récupérer la tête de l'ancien dictateur. Elle flotta bientôt à la surface de l'eau, maintenue par un lit d'éponges. Un vent violent souffla aussitôt sur le village de Rochien, éteignant d'un seul coup les pierres encore en feu. Cela permit également aux habitants de refroidir rapidement. Ceux-ci purent apercevoir la tête de leur chef qui flottait sur le bord de la rive. Ils n'eurent plus de doute par la suite. Le géant était bel et bien vaincu. Alors un guerrier ennemi dit à Bras Puissant, « Nous sommes vaincus, dorénavant nous serons vos esclaves. » « Non, lui répondit froidement le héros des épongiens. » Bras Puissant scrutait l'horizon du ciel en faisant signe à tous de se taire. Alors une voix puissante se fit entendre, provenant de nulle part et de partout à la fois. « Vous voici de nouveau réunis, peuple des pierres et des éponges. » Je ne veux ni vainqueur ni vaincu, mais votre désir de réconciliation. toi, peuple épongien, accomplis à présent cette noble mission de laver toutes les pierres de leur sang. Et toi, peuple rochien, n'oublie jamais les erreurs commises par les humains de l'autre civilisation. » C'est ainsi que Bras Puissant et ses 200 frères épongiens lavèrent les premiers rochers. Bientôt, le roi des éponges traversa la rivière, suivi par son peuple, afin d'aider leurs confrères dans cette tâche historique. Une fois cette mission accomplie, toutes les éponges sautèrent joyeusement dans l'eau. Elles obéirent ainsi à cette voix qui retentit de nouveau. « Venez, toutes mes éponges, retrouvez à présent votre mère patrie. » Lorsque le dernier épongien atteignit le fond de cette eau magique, la rivière disparut comme par enchantement. Il se mit ensuite à pleuvoir, et toutes les pierres se changèrent en humains. C'est ainsi que prit naissance une nouvelle humanité. Peut-être saurait-elle devenir plus sage que la précédente, puisqu'elle venait de reconnaître que l'impuissance des faibles avait, grâce à sa foi, réussi à vaincre la dureté de la pierre.